C'est quoi le truc vert là-bas?
Pistache.
Tu veux boire quoi, dis?
Mangue. Non, boire pas trop. Non, je t'envoie,
c'est quoi le truc vert? Genre, pop, le petit déj du jour du rap, le jour de live.
Pilote les yeux laser.
On peut manger ou? On peut manger?
Regarde, tiens-moi, j'étais mort.
C'est bon, on peut manger. Ok, bismillah.
Depuis que t'es partie à Londres.
T'as changé, hein?
Faut que tu me racontes un peu.
Maintenant, elle pense en anglais.
C'est ça. Allez.
Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre.
Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Say. On enregistre un petit peu sous la menace de tous nos auditeurs qui nous ont demandé d'enregistrer bien vite pour sortir un épisode parce que ça fait un peu un an, en vrai, qu'on dort. On n'a d'ailleurs pas tenu notre promesse faite à Asdin sur Twitter, à qui j'avais promis un épisode pendant le ramadan, mais mon gars...
On n'a pas dormi pendant le ramadan.
Tu vois pas, on était occupés. tu vois pas qu'on n'a pas fait genre ni un, ni deux, mais trois tours collectifs cette année, trois events avec un souk en prime. Et cette année, donc certes, on n'a pas pu être présent, mais tu connais les résolutions du ramadan. Là, je te mens pas, on a un peu envie d'envoyer genre trois épisodes par jour. À ma table, on a la team classique, les All-Stars, la même équipe que lors des deux derniers épisodes qui datent d'il y a presque un an. Aujourd'hui, à ma table, il y a Wafa, comment tu vas?
Hello, ça va et vous? Moi, tranquille, franchement, nickel.
Sidox.
Tout va bien, alhamdoulilah.
Amel.
Ça va toujours.
Irfan.
Ça va.
Théophile.
Ouais, super.
L'épisode d'aujourd'hui va forcément porté sur le check-up annuel. Donc on va faire un big check-up où on va revenir un petit peu comme chaque année sur l'épisode post-ramadan, sur notre petit état de vie, sur le ramadan, les événements de la Tay. Mais surtout cette fois-ci, on va aussi revenir sur nos titres phares, car j'ai pris le temps de réécouter certains extraits et les copains dans les épisodes, on était des bébés. Est-ce que vous savez c'est quand le premier épisode de la Tay qu'on a enregistré?
C'est quand?
24 octobre 2018.
Exactement. On m'a regardé juste avant d'enregistrer.
Ah, c'est pas bon.
C'était le 24 octobre 2018, c'est-à-dire 4 ans, 5 mois et 29 jours à l'heure à laquelle on enregistre. Je pense qu'on peut s'applaudir, les copains. Donc voilà, on va commencer peut-être par faire un petit récap sur comment vous avez vécu le ramadan. C'est aussi un sujet qui est assez intéressant parce que, en fait, Wafa et Irfan n'étaient pas là au début du podcast, mais elles étaient là l'année dernière quand on a parlé. Elles étaient encore assez timides dans l'épisode. Peut-être un peu intimidées parce que c'était la première fois. Mais ouais, vous les copains, cette année, là on enregistre, on est le lendemain de l'Aïd. Ça s'est passé comment ce ramadan?
Mais perso, grosse évolution par rapport à l'an dernier, puisque si je me souviens bien, j'avais dit que le ramadan c'était pas forcément ma période fave de l'année, c'était un peu voilà quoi, avec les cours ou le stage et juste, c'était hyper fatigant tout ça. Alors que cette année, les gars, c'était incroyable, non c'était vraiment trop bien. Je me suis fait des nouveaux copains, beaucoup de copains musulmans que j'avais pas forcément avant, avec du coup plein de banlieues. Donc, gros bisous à vous. Et en fait, pendant ce ramadan, on a fait des tours chaque samedi ensemble. Et du coup, le dimanche, on avait les photos de la taille. Et c'était trop bien. Genre, on avait un rythme de fou. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un rythme incroyable. Je suis allée à tous les photos, j'en ai pas raté un seul. Et bah, le meilleur amour de ma vie. Clairement.
La fast life.
Mais c'était trop bien. Il y avait les tarawih, c'était les premiers tarawih que je faisais en dehors de chez moi, du coup, dans une mosquée. Et c'était trop bien. Un peu long. Je savais pas que c'était comme ça, que c'était aussi long. Parce que du coup, moi, les tarawih, c'était un peu rapide, quoi. Je
ouais, sais. C'était 8 rakat.
C'est ça, c'était plié assez rapidement. Alors que là, t'as un peu des vertiges au bout de 30 minutes, tu vois.
Encore, toi, t'as loupé quand c'était en été, à minuit 30 là.
Et exactement.
C'était compliqué.
Mais non, franchement, c'était incroyable. Merci, Shaima, de nous avoir accueillis. Ouais. Chez toi et de nous accueillir encore cet après-midi ouais. Pour un lahid avec les copains encore. Et merci les copains de la taille aussi pour les tours qu'on a organisés et les gens qui sont venus. C'était trop bien. Mmh. Voilà.
C'est vrai qu'on avait un rythme super soutenu de tour. Genre à chaque fois, dès que c'était en mode de ouais, t'as pas pu venir cette semaine, bah c'est pas grave, il y a la semaine prochaine.
Mais c'est clairement ça.
Ouais, et tu sais, les gens ils m'envoyaient, ils me disaient, mais nous on n'arrive plus à s'en sortir. Genre on comprend plus quel tour et quoi, ou enfin comment,
mais
quelle
nous, on
heure.
On était perdus.
Ouais, de fou. C'était comment toi ton ramadan?
C'était un très bon ramadan dans le sens où c'est le premier qui arrive pas pour éteindre un peu le feu de ma life quoi, depuis quelques années. Genre, alhamdoulilah, je grandis, je m'améliore dans plein d'aspects de ma vie. Et donc, le fait d'avoir réglé des soucis en amont, ça me permettait de plus apprécier ce mois de ramadan. Le fait d'avoir amélioré mon hygiène de vie, tout était plus calme. J'ai réussi à calmer beaucoup de trucs avant le ramadan et ça m'a permis d'en profiter encore mieux. Et donc voilà, comme a dit Amel, on a partagé des super moments avec les copains de Plume Banlieue, avec vous, des moments très tournés vers la spiritualité et vers les étapes de la vie qui approchent aussi. C'est pour ça que je dis ça en rigolant. Mais ouais, non, c'était un très très bon ramadan.
Qui se lance?
Toi.
Ah ouais, moi. C'est vrai que je fais partie de la discussion, des fois j'ai oublié. Franchement, moi, mon ramadan cette année passait à la vitesse de la lumière, je l'ai pas vu passer.
Ouais, incroyable.
En fait, chaque année, enfin, surtout ces deux dernières années, il est passé très très vite parce que j'étais plongée pendant tout le ramadan dans l'organisation des tours à chaque fois. Donc en fait, je suis tout le temps entre deux échéances en fait. Soit il y a un tour qui arrive, soit il y en a un qui vient de terminer et un autre qui arrive. Et du coup, ça fait que genre pour moi, ça passe archi vite parce que je suis grave dans ces organisations et tout. Mais en même temps, j'adore ça et j'adore faire ça. J'adore genre quand on est genre 80 autour d'une table et qu'il y a plein de gens différents et que je sais que je vais pas parler à tout le monde, mais que tout le monde partage un truc avec nous à ce moment-là, tu vois. Et après, d'un point de vue un petit peu plus perso, c'était un peu fatigant, mais pas aussi épuisant que l'année dernière. Je sais pas pourquoi l'année dernière, j'allais mourir pendant le ramadan de fatigue. Et cette année, pas vraiment. Après, j'ai eu la chance aussi d'être dans un taf où, bah, en vrai, ils ont grave aménagé mes horaires pour ça, tu vois. Dans le sens où, bah, dès que c'était le début du ramadan, mon tuteur de stage, il m'a direct dit si tu veux venir une heure plus tard ou partir une heure plus tôt, aucun problème. Et du coup, ça fait que, bah, vu que, en fait, moi, genre, mon rythme de sommeil où je survis, c'est je reste réveillée jusqu'à 2h du matin et après je dors et je me lève pour aller au taf. En fait, quand je me lève au milieu de la nuit, ça me coupe et j'ai envie de mourir le lendemain. Genre, j'arrive pas. J'ai essayé plein de fois ce rythme. J'arrive pas. Inch'Allah, un jour, j'y arriverai. Genre, moi, mon kiff ultime, ce serait de me réveiller pour le fajr et après de rester debout. Mais genre, vraiment, je ne peux pas. Et du coup, non, voilà, franchement, c'était assez cool. Ce qui était bien aussi, c'est que pareil, l'orga des événements, vu que c'était la deuxième année, c'était beaucoup plus fluide que l'année dernière. Donc franchement, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'anxiété dans la façon dont j'abordais les choses. Et non, après, j'ai passé du temps avec ma famille, j'ai passé du temps avec mes amis. J'ai passé... Franchement, je vous ai beaucoup vu, en vrai. Je vous ai plus vu que mes darons, limite, ce dernier mois. Là, je voyais tout le temps. Mais non, c'était cool. J'ai organisé mon premier tour chez moi aussi, de ma vie. J'ai invité des potes.
Super.
Ouais. Et voilà.
Hein. D'ailleurs, c'était moi, des potes. Et les curés japonais étaient incroyables de Lina. Merci, voilà.
Arrêtez.
C'est tout pour moi.
Voilà, ils sont arrivés, ils m'ont trouvé chez moi en pétard, en train de faire avec une brique sur le feu, l'autre cramée. Bref, c'était...
Et c'était bon.
Ouais, mais c'était cool et on s'est bien amusé. Et donc, ouais, franchement, c'était archi cool. Genre, j'écoutais beaucoup de podcasts sur la religion et tout. Ça m'a grave permis un peu plus de me recentrer. Vraiment, en fait, plus sur un niveau limite spirituel et développement personnel que uniquement des actes ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. C'est-à-dire que, genre, j'essayais de faire talawih toute seule, ou alors avec mon père, ou alors de partir à la mosquée, mais quand je pouvais pas, en fait, j'étais beaucoup dans ce truc de si je peux pas, c'est pas grave. Là où, l'année dernière, j'ai l'impression que j'avais un peu plus de culpabilité si je faisais pas les choses et tout, tu vois. Là, j'étais en mode, ok, j'ai des contraintes dans la journée, genre, j'essaye de faire ce que je peux faire, tout en survivant aux contraintes de la journée. Là où l'année dernière, j'avais grave envie de faire les talawih et en même temps, je dormais pas, mais je me levais archi tôt pour aller en cours, et ça me... Enfin, tu sais, j'avais ce truc où, genre, j'étais un peu plus pisse dans la façon d'aborder les choses, en tout cas, cette année.
Ouais, t'as réussi à mieux conjuguer ta vie et...
Ouais.
Ta vie spirituelle et ta vie matérielle.
C'est ça. Et mine de rien aussi, le fait d'être entouré de beaucoup de musulmans et de non-musulmans qui comprennent aussi, bah, ça aide grave, genre. Parce que tu partages ça avec des gens. Là où, en fait, quand je réfléchis à, par exemple, il y a 3-4 ans, on n'était pas... Enfin, moi, personnellement, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là de le ramadan. Je le partageais pas avec mes amis, je le partageais pas avec des gens autour, genre...
Pareil.
C'était un truc qui était que à la maison, tu vois. Et c'était un truc, je le fais, je rentre et c'est tout. Alors que là, c'est devenu, genre... une période de l'année, tu vois, avec, genre, ses rituels, ses kiffs, ses traditions, mais au-delà des traditions religieuses et culturelles de la famille et de la religion, il y a maintenant mes traditions du ramadan, genre, de ma vie à moi et de mes potes à moi et tout, tu vois. Donc ça qui était assez, assez cool cette année. Voilà.
Ouais, je comprends. Moi, ça me fait bien plaisir aussi de pouvoir aider à créer ces nouvelles traditions, avec l'iftar, avec le souk, créer des environnements où si t'es sur Paris et que t'as pas de famille, tu peux venir et on prend soin de toi. On te nourrit, on te file un lieu pour prier, pour être en paix, en fait, dans ce pays qui parfois veut pas que tu sois en paix. Et c'était grave fou. En plus, on a eu des gens mais qui nous venaient des quatre coins de la France.
Ouais, ça, c'était
exposants et visiteurs au souk. Il y a une meuf, elle est venue de Bruxelles pour venir nous aider. Shout out, hein. La BX Hill Connection, hein. Mais, et c'était incroyable. Et bah ouais, franchement, en tant qu'esprit de communauté, enfin, je le vois depuis l'année dernière, on commence à faire des trucs mais qui sont géniaux.
Qui résonnent.
Et on nous a dit, enfin, on m'a dit plus d'une fois, les fours et les soupes de la taille, c'est un événement, on se donne rendez-vous l'année prochaine, genre entre nous. Mmh. Et on attend ça, en fait. Et c'est là où j'ai... Ça finit par... Tu sais, j'ai fini par percoler dans ma tête. Genre, putain, mais en fait, on a un impact qui est incroyablement positif, incroyablement, tu sais, spirituel et matériel, mais super beau. Et on n'est pas là pour se faire de la thune. On est juste là pour donner du bonheur. Et c'est grave cool.
Ouais.
Merfan.
Il y a plein de choses qui ont été dites, là. Déjà, je te rejoins sur... le fait de culpabiliser, pareil, bah moi du coup j'ai fait 2 semaines à Marseille, 2 semaines à Paris, enfin c'est passé tellement vite que j'ai oublié que j'étais à Marseille, et à Marseille j'étais toute seule et je culpabilisais de ouf de pas aller à la mosquée, parce qu'en fait il y en a une mais le chemin il est un peu bourbier, du coup je me voyais mal y aller, du coup je me disais oh non je dois rester chez moi, non, et vraiment comme toi il y a eu plus ce truc spirituel où j'ai l'impression que j'ai grave évolué petit à petit, religieusement et tout. Mais par contre, moi, à contrario d'Amel, je trouve que c'était un ramadan où j'étais très très seule au début. Ma même famille, elle me manquait de ouf et tout. En plus, quand je remontais à Paris, je voyais pas ma mère, parce qu'elle habitait à Chartres. Donc, désolée, ça me peine un peu. Et... Pardon.
Non, t'excuse pas.
Et je sais que c'est un ramadan où ma maman, elle me manquait trop trop trop. Et je l'ai vu hier, ça m'a fait trop du bien. On était chez ma tante, tout ça. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu de moment comme ça. Et à Paris, ça va, c'est passé super vite. Le fait qu'il y ait eu les événements de la taille. Et plein d'autres trucs à côté, même avec mes potes, ça m'a fait du bien aussi de revoir du monde. Pourtant, enfin, c'est pas en soi le fait d'être à Marseille, mais c'est plus la famille.
Ouais.
C'est le fait d'être isolée, en vrai.
Ouais, c'est ça, exactement. Et ma pote, enfin, avec qui je suis à Marseille aussi, bah, comme par hasard, elle n'était pas là. Du coup, bon, c'est plein de trucs. Et quand je rentrais à Paris aussi, enfin, mon père, il pratique pas. Donc, t'es vraiment tout seul dans ton cheminement et tout. Donc, c'est compliqué.
T'es consciente que c'est une phase de ta vie?
Ouais.
Parce que je te dis ça dans un message optimiste à base de...
Oui,
je
oui,
me rappelle
oui.
de nos premiers épisodes des bribes de Ramadan où certains d'entre nous parlaient de...
Du fait d'être seul.
Du fait d'être seul. Non, je pensais plus à la non-appréciation parfois du mois de Ramadan à cause de baisse de foi, de contexte compliqué, etc. Oui. Et qui aujourd'hui... vont beaucoup mieux dans nos entourages et tout.
Ouais, mais en plus c'était même pas ça parce que je l'attendais de ouf ce Ramadan, genre j'avais trop hâte, l'année dernière c'est trop bien passé et tout, et là j'avais presque envie qu'il se finisse, mais je l'ai pas non plus pas apprécié, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Genre comme j'ai dit, spirituellement ça m'a grave apporté, et justement je me disais, je sais que c'est une phase, que ça va, enfin ça va aller inchallah et tout, que c'est pas vraiment enfin, j'allais pas mal, vraiment, tu vois. C'était plus la situation actuelle et tout. Mmh. Et voilà, enfin, ça m'a appris plein de choses. Mais d'un côté, je suis un peu soulagée que ça se finisse. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un poids en moi, en mode, ah, c'est bon, là, j'ai pas besoin d'être avec ma famille. Enfin, j'ai pas besoin. Mmh. Genre, c'est bon, j'ai vu ma mère. Il y a pas le truc de, c'est le Ramadan, tout le monde est en famille. Et toi, t'es tout seul. Mmh. Et je sais que c'était le cas d'autres personnes, enfin... Genre, j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont hyper loin de leur famille et tout. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas eu la même approche, mais j'espère que ça ira des autres années.
Inch'Allah.
Mais désolée d'avoir...
C'est
du coup, big up à ma maman. Du coup, ça.
Wafa.
Ouais. Bah, moi, du coup, j'avoue, comme Ina, il est passé archi vite. Genre, franchement, archi vite. Et mais c'était vraiment le ramadan du partage, genre j'ai vraiment partagé plein de ftouls. Bah déjà avec la tête, il y avait trois ftouls, c'était rythmé, genre c'était le rendez-vous de la semaine, genre c'était calé à l'avance, etc. Après j'ai commencé le ramadan à Lyon, après j'ai fait des ftouls chez mon frère, chez des potes qui étaient seuls. Enfin franchement c'était vraiment le ramadan du partage pour moi, je me suis, au contraire, enfin du coup genre je me suis retrouvée vite entourée de gens et tout, même si on était que deux parfois, bah rien que deux ça a un effet en fait de ouf. Et après, on va dire, d'un point de vue plus perso-spirituel, bah, cette année, bizarrement, j'étais plus en mode, ouais, mais après le ramadan. C'est-à-dire, l'état de ramadan, je le tiens. En fait, c'est bon, je performe, genre ça va.
Ouais.
Genre vraiment, je me dépasse et tout, je fais des trucs. Genre j'enchaînais, hein, j'ai dû faire plus de 10 tarawih et tout. Enfin, facile. Enfin, franchement,
devant,
je tiens,
j'ai
des lectures, etc. Mais en fait, j'étais plus dans le mode de, ouais, mais après, genre un peu, t'es un peu schizophrène. Tu tiens pendant un mois et après, il n'y a plus rien jusqu'à l'année d'après. Donc là, c'est plus sur ça que j'ai réfléchi et essayé de travailler. Donc, c'est un peu comme ce qu'on disait. Il y a le bon année de janvier. Il y a vraiment les résolutions de ramadan à ramadan que je dois mettre en place, en fait.
Mais je trouve, dès ce matin, si tu me suis dit ça, genre hier, en plus, je me suis dit, bon, allez, je ne mets pas de réveil à 5 heures cette fois, c'est bon, ça passe. Du coup, je ne me suis pas réveillée pour Fajr.
Ouais.
J'étais en mode, dans le train, je me disais, purée, c'est dès le premier jour, là...
Ton cerveau, il se désactive, il y a un peu ce truc-là, un peu flippant, en fait. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est plutôt sur ça que j'ai envie de travailler jusqu'à l'année prochaine. Donc, je vous dirai, Inch'Allah, l'année prochaine, comment j'ai réussi.
Mais c'est le plus dur, hein,
ouais, c'est
de tenir, genre... Et de pas être en mode genre, ok, je retiens ma respiration pendant un mois et après
exactement,
c'est fini,
je retiens ma respiration.
Mais juste genre de se dire, ok, genre, je vais prendre de nouvelles habitudes que je vais garder pour ma vie, genre. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus compliqué. Mais...
Faut peut-être se mettre en tête de l'aborder comme ça dès le départ.
Ouais, c'est vrai.
De pas se dire, là, je vais faire le mois de ramadan. Grave. Se donner l'objectif d'essayer de travailler ça pour machin. Et je vous parle de trucs que je n'ai pas encore réussi à faire. Hein.
Déjà, rien que de prendre conscience de ça,
c'est
une partie du travail.
Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait une échéance en fait, à cet effort-là, ça fait que tu as plus la motivation en fait, de faire la chose pendant un mois. De toute façon, dans un mois, c'est fini. Puis après, je pourrais me relâcher. Alors que c'est pas du tout la bonne chose à se dire. Parce que du coup, là, il plus vrai. Un et après, c'est fini.
Après, là, on peut donner l'impression qu'on est les derniers des mécréants, mais...
Non. Chacun à son niveau, dans
voilà,
son niveau
ça,
de
c'est
cheminement à la base.
C'est
vraiment, de toute façon, il y a toujours à faire. N'importe où t'es.
Je connais, il y a des gens qui nous connaissent.
Oui, pas, oui, oui. Oui, c'est vrai, dans ce cas, j'avais pas pensé pour la pression sur ça.
Ouais, mais après, c'est un safe space aussi, s'ils jugent.
faut pas nous écouter.
En fait, j'ai l'impression que. Et moi, c'est ce qui m'a frappé en pré-ramadan cette année. C'est. Vous voyez, en ce moment, il y a. Alhamdoulilah, il y a de plus en plus de contenu sur internet qui parle de religion, qui parle même de culture islamique en général, etc. Et en fait, le truc qui m'a vraiment. Enfin, c'est pour ça que je parlais de culpabilité, c'était le truc des programmes du ramadan.
Ouais.
C'était. Du coup, je me lève, je vais faire Fajr, après je vais lire tant de pages du Coran, après je vais faire tel doha, après je vais faire ci, après je vais faire ça, après je vais faire une prière sur érogatoire, après je fais Dhuhr, après je fais 4 rakaat, après Dhuhr et 2 rakaat, après avant. Enfin, et en fait, c'est à ce truc de genre, et ensuite je fais mes repas comme ça pour m'organiser pour l'iftar, comme ça je suis hyper carré pour l'iftar, le iftar il est prêt à l'heure, et ensuite le soir, une fois que j'ai fini l'iftar, je vais faire Tarawih, une fois que j'ai fait Tarawih, je vais rentrer chez moi, je vais lire le Coran, et après je me couche, et ensuite je me réveille à 3h du matin pour faire Tahajjud, et après... Enfin...
Ouais, en plus on dirait qu'ils ont pas de... Enfin, en vrai, les gens qui font ça, c'est les gens qui travaillent pas, ou qui sont travaillent de chez eux, tu vois, mais... Mmh.
Non, pas... même en télétravail.
Ça me rappelle vachement les trucs d'influenceurs et milliardaires.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement la même chose que ce que Théophile dit.
Tu disais.
Pardon, vas-y.
Ça me rappelle vachement les trucs d'influenceurs millionnaires du style je me lave à 5h, je prends une douche froide, j'ai 25 pompes, tu vois, après je mangeais des testicules de bœuf cru. Enfin, tu sais, les trucs de. Absolument, mais genre, tu dis, what the fuck?
Genre le miracle morning.
Ah, c'est ça, c'est grâce à. Ensuite, tu sais, je me recouvre d'aloe vera, et je glisse dans la rue et je deviens la bûche, tu vois. Enfin, bref, des trucs, mais complètement.
Ouais, non, mais c'est
alors qu'en fait, bah. Non.
Toi, tu après, il y a des choses faisables.
Ouais, et même.
Ça peut encourager aussi. Mais...
Parce que quand tu te donnes le temps de le faire, quand on a la possibilité, ta vie est magnifique. Ta vie est magnifique. J'ai eu la chance de poser la dernière semaine, tu vois, de congé.
C'est trop
incroyable. En plus, j'ai voyagé, donc je suis allé à Londres, etc. J'étais moi et ma tête, etc. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc, faut peut-être nuancer ce message avec les réalités de la vie.
En fait,
mais
voilà.
C'est excellent à vivre.
Je pense qu'il y a genre, moi, je trouve en fait que c'est une sorte de copier-coller de l'influenceur That Girl, tu vois, version islam, où en mode c'est je fais ça. En fait, t'as, d'un côté, c'est inspirant parce que tu dis, ok, tu peux prendre des morceaux et les appliquer à ta vie, mais de l'autre côté, tu sais, t'as ce truc où genre, c'est pas culpabilisant parce qu'en vrai, c'est la façon dont tu prends le contenu, mais ça peut faire culpabiliser dans le sens où, bah, en fait, c'est juste. Je n'ai pas trouvé de. J'ai eu du mal à trouver des routines de ramadan applicables à la vie réelle, genre applicables à quelqu'un qui doit travailler toute la journée jusqu'à 18h, tu vois, par exemple.
Mais c'est donc, là aussi, donc, ça a le bon phrasé là-dessus, c'est qu'il faut nuancer ça avec les réalités de la vie. Et les réalités de la vie, c'est tu taffes 39-40 heures par semaine, t'as une famille, t'as des transports, tout le monde n'habite pas à 2 mètres de la mosquée ou. Tu vois,
parle des transports, vas-y, parle.
Bah, on va parler, moi, je sais.
Tu sais, t'as des choses à dire. T'as un message à faire pas ça, la
RATP. Ouais, non.
RATP, SNCF.
Rien de positif, rien de. Non.
Retient. Non, mais plus sérieusement, c'est ça, en fait. Il faut. Mais ça, dans tous les aspects de la vie qu'on est confronté aux influenceuses, aux influenceurs, que ce soit pour des trucs de la mode, des sneakers ou de la religion. Faut toujours nous ça avec les réalités de la vie. Mmh. Et quand t'es jeune et très influençable, ben c'est aussi à nous plus âgés, adultes maintenant, de s'y faire un travail là-dessus pour contrebalancer ces influences-là.
Après, c'est moi ou mon algorithme TikTok qui devient musulman pendant le ramadan.
Bah, moi, j'allais justement rebondir là-dessus. Bon, j'ai pas TikTok, mais sur Insta, j'ai l'impression que genre cette année-là, il y a eu, bah comme t'as dit, un boom. Hey,
pause. Irfan, tu vas péter les plombs le jour où tu vas arriver sur TikTok.
Mais jamais de la vie. Je me suis promis de ne jamais mettre TikTok.
Oh non, pourquoi?
Mais t'as bien raison, t'as bien raison.
Je perds trop de temps déjà assez
t'as sur TikTok.
Non, ok, c'est un argument.
Le temps que tu vas perdre, il va juste être transporté sur TikTok. Tu vas pas perdre plus de temps.
Non, mais déjà, là, juste sur de calmer Insta, alors je vais
c'est
pas.
C'est clair
que
t'as
presque. Et bah, quitte à choisir en gros, pourquoi je te dis ça, c'est que quitte à choisir. TikTok, je trouve ça plus instructif quand c'est bien orienté.
Je vois,
que Insta, c'est une dinguerie, gros.
Insta, c'est vraiment code d'esthétique.
J'aimerais bien gênant. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, j'allais dire.
Bah,
non, t'inquiète. je voulais dire que j'ai l'impression que c'est devenu, je sais pas, cette année, grave réseau, genre le ramadan, je sais pas comment dire, mais bah, j'ai l'impression qu'avant, il n'y avait pas autant de contenu, enfin, positif comme, pas négatif, mais des trucs un peu genre de prouveurs, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire.
Des poseurs.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'esthétisation.
Ouais, exactement. Et même par rapport au fait de faire des to-do list, enfin, pas de, comme, je sais pas comment on appelle
Des routines.
Enfin, en vrai, je pense qu'il y a déjà des gens qui le faisaient. Ouais. Mais là, c'est en mode très esthétique, très. Ça devient hyper commercial, je trouve, et tout. Ouais. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui a changé par rapport à ça. Et je me dis, mais ce sera comment les années d'après, non.
Mais est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose en vrai?
Je sais pas, moi je l'aborde pas. Je sais pas. En fait, en vrai, j'ai du recul là-dessus, je m'en fiche. C'est bien parce qu'en vrai, ça donne de la visibilité à la religion. Mais je pense qu'il y a des mauvais aspects aussi, un peu.
Moi, j'ai une opinion. Donc, pour apprendre un cadre de lecture marxiste, non, et plus sérieusement, ce genre de choses, ça me rappelle la première fois où je suis allé à la Galerie Lafayette et j'ai vu un vêtement hors de prix, avec une étiquette que, tu vois, je peux même pas dire le prix, mais avec des motifs de camouflage militaire. Je me dis, les gens qui achètent ce genre de choses, jamais ils iront dans les tranchées. Et qu'en fait, la fashion, la mode, elle absorbe tout pour le digérer et le régurgiter.
J'allais aller dans cette direction.
Et de même sorte qu'on voit des t-shirts Che Guevara, je pense que le capitalisme va prendre tout ce qui l'oppose, le digérer et le régurgiter. Et comme on peut le voir un peu inspiré du ramadan, les trucs de jeunes intermittents, tu vois, qui commencent à apparaître dans la société occidentale, je pense que le ramadan va se faire digérer et régurgiter en un truc qui va être kawaii, cute, souvent dénué de toute dimension spirituelle ou même, tu vois, de dimension très matérielle du type la zakat, tu vois. Genre faire le monopole. Moi, c'est un des. T'es la spiritualité avec moi, c'est un petit problème, mais il y a des trucs très matériels, très dans l'aide du prochain, de ton prochain qui me parle, et je profite du ramadan pour être un peu plus focus là-dessus, tu vois. C'est le moment où je m'investis plus pour les travailleurs, parce que je suis aussi syndiqué, et je donne aux pauvres et ce genre de choses. Et moi, je vois le machin arriver, mais genre vraiment à 10 km. L'année prochaine ou celle d'après,
ouais, exactement.
Influenceur ramadan. Déjà, tu vois, ça va être influenceur ramadan, que ça vienne de Dubaï ou que ça vienne de Paris,
ou
on
du Maghreb,
fout,
hein,
ou du Maghreb. Hein.
Avec Shomisha, je crois. Je crois que c'est Samia.
Samia, ouais.
Qui a fait une pub avec la meuf qui fait des vidéos.
Shomisha.
J'aimerais juste sur un truc,
en gros, par rapport à tout ce qui est esthétisation du coup du ramadan, pour moi, il y a juste un truc positif, en tout cas, ça l'est pour moi, c'est parce que du coup, j'aime bien les choses belles, et quand c'est beau et que c'est bien présenté, etc., et ben ça va m'attirer, ça va me pousser à le faire. Malheureusement, je suis influençable dans ce sens-là. Pinterest est un de mes réseaux préférés. Voilà, pardon, hein. Mais. En fait, le fait d'avoir vu autant de filles, surtout enfin de femmes, montrer un peu des catreading with me, entre guillemets, juste, enfin ouais.
Des quoi?
Des catreading with me, ramadan, okay. Et tout, avec leur petite gilbebe rose pastel, satinée, en mode un peu méduse. Ça m'a trop donné envie. J'étais en mode, putain, mais je fais la même chose, je vais faire ça moi aussi. Et avoir un petit coin mignon religion, et me poser et lire mon petit Coran, très dans la performance un peu, mais c'est un peu théâtral, mais j'aime bien et ça va. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a un peu poussée aussi à le faire. C'est très paradoxal comme take, mais ça marche pour moi. Et je pense que ça marche avec beaucoup de gens, plein de victimes du capitalisme, comme moi. Mais du coup, ça serait vraiment la seule bonne chose que je pourrais en tirer. Après, évidemment, je suis d'accord avec le bail de un peu fast fashionner le ramadan, de l'incurgité et de l'incurgité à la kawaii, comme tu as dit. Je suis archi d'accord, et c'est vrai. Après, t'as des victimes comme moi qui ça plaît un peu. Mais juste un peu, hein, s'il vous plaît.
À la croisée de ce que vous avez dit tous les deux, moi, il y a l'idée de perdre, de plus regarder dans la bonne direction, de pas regarder les bons éléments d'un mode de vie. Et ça permet de resituer un propos que j'ai beaucoup évoqué avec Lina sur Instagram et les artistes d'Insta. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent artistes pour l'être sur Insta, pour être stylé, pour bien paraître, etc. Et si t'as le ramadan d'Insta, Ouais. C'est, j'ai peur de cet aspect-là de gens qui jeûnent très très fort pour des likes et qui.
À ce point,
hein,
quand même, c'est. Qui ont jeûné pour des likes.
C'est un peu Black Mirror ton truc. Non. C'est peut-être pas aussi.
Bah, je pense pas que ça.
Si, mais dans le sens où c'est un contenu.
Vous me prenez un peu trop au mot.
Je pense que c'est.
Vous me prenez un peu trop au mot. Ouais, c'est.
Ouais, y a un, ouais.
Vous me prenez un peu trop au mot, mais plus. Montrer, enfin en fait là on développe autour, on développe autour d'un terme que t'as utilisé tout à l'heure, Irfan, c'est prouveur.
Oui. Tu vois.
Au même titre qu'il y a des gens qui vivent leur vie pour prouver.
Ouais.
Si tu le fais dans des trucs aussi sacrés qu'un mois béni ou que d'autres trucs religieux, etc. Boah. Mais je suis complètement d'accord avec ce que t'as dit, Amel. Je préfère encore un prouveur. Non, je préfère Star. un prouveur est peut-être plus proche du vrai qu'un mec qui calcule pas ça du tout, tu vois. Donc
bah, en fait ça va quand même influencer certaines personnes,
mais... ouais, mais regarde le mec qui pratique, qui se renseigne, qui machin, il est plus proche d'y arriver que celui qui le fait pas.
Une hasanat, c'est une hasanat. Genre, si l'acte est fait, il est fait, que ce soit pour prouver ou pas, en soi, il a été fait. Après, pour ce qu'il y a dans son cœur, ça se passe entre lui et Dieu. Enfin, ouais. Nous, on peut pas savoir s'il veut prouver ou pas. En tout cas, le mec, le mec ou la meuf, en tout cas, il va influencer des gens à pratiquer, que ce soit d'une manière esthétique ou pas. Comme moi, ça m'a influencé. Et c'est ça, c'était de ça dont.
Mais après, t'as l'idée de qui influence, qui peut être un souci.
Comment
comment. Et. Là, nous, on parle entre convaincus, entre gens qui avons eu la chance d'être un minimum éduqués là-dessus. On n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ne nous ressemblent pas et qui ne nous connaissent pas et qui. Et donc, c'est là où ce que je viens d'évoquer de qui représente, qui influence, qui parle, ça devient encore plus important. Parce que des fois, il y a des gens...
Ils disent la merde.
Ah, ils disent la merde, gros.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai entendu comme truc.
T'as pas vu, par exemple, là, déjà, le dernier imam qui disait que...
Le métissage, là.
Ouais, pour
Mais attends, mais du coup, ça, pour moi, c'est pas vraiment dans le cadre, là, puisque du coup, c'est pas vraiment en mode ramadan, c'est pas en mode de... Je me lève à 5h du matin, je fais ma prière avec
mon petit rose. C'est un imam qui va dire...
Mais ça, c'est juste un mec qui...
C'est un imam qui va dire, ça, c'est bien,
et plus justifié. Ça, c'est les prêches partout.
Exactement. Mais sauf que, avec une esthétisation du ramadan et plus globalement de la religion, tu risques d'avoir beaucoup d'attention sur tous ces gens-là qui disent de la pisse.
Moi, par contre, ce que je rebondis sur un truc avec lequel je suis très d'accord avec Amel, c'est le fait que ça donne envie, et je pense pas qu'il faut culpabiliser de ça, parce que non. C'est réel à partir du moment où c'est même dans la vie de tous les jours, à partir du moment où genre t'es bien habillé, t'es bien apprêté, t'es bien sapé, et bah tu sais, genre tu te sens mieux que bah, quand t'es en jogging, en pyjama et tout.
Oui,
donc forcément, tu vas pas aborder la prière de la même façon si tu pries avec genre une veste, une jupe qui vient et une sorte de voile que t'as décidé de mettre en hijab et que t'es en schlag en fait.
Non,
genre, plus ta prière que quand tu t'es préparé, que t'as ton.
Ouais,
ouais, mais genre même le fait d'avoir un beau gilbert.
Attends,
c'est ce que j'allais dire là, si on me laissait parler là, pour rebondir sur ce que Lina disait.
Pardon, si. Comme ça, je te mets un coup.
Pardon, ce que je voulais dire. C'était mon argument. Pardon. Mais du coup, en fait, c'est aussi que le beau fait partie de la religion, et qu'Allah aime le beau, aime les choses belles, aime l'esthétique finalement. Donc rendons la religion belle. Enfin, pas besoin d'être tout le temps austère et tout. Enfin.
Ouais.
En fait, on n'a pas une religion austère.
Ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, dans ma vie, j'ai eu cette éducation-là. Ouais, la religion, c'est tout seul, c'est austère. Faut pas, c'est pas dans l'opulence ou quoi.
T'es trompée de religion. Ah.
c'est vrai. Mais du coup, en fait, c'est ce qu'on disait autour de moi. C'était pas forcément la vérité. Du coup, je l'ai compris plus tard. Mais dans le sens où tu peux être beau, belle, te saper bien, avoir un joli coin. Et voilà. Et
en fait, la menace, elle n'est pas sur ceux qui s'y intéresseraient grâce à cet environnement-là, mais elle est sur ceux qui pourraient le créer et
capitaliser,
égarer. Tu vois, toi qui t'es arrivé à destination, peu importe par où t'es passé, tant que t'arrives au bon endroit, c'est carré. Mais le mec qui t'a guidé à droite, à gauche, s'il n'est pas sûr de ce qu'il te raconte. Ah là là.
En tout cas, on verra dans les prochaines années. Mais moi, il y a un dernier truc sur le thème du ramadan sur lequel j'aimerais revenir. Et shout out à tous les gens de mon entourage et tous les gens que je vois faire ça. C'est la photo traditionnelle de la tenue de l'Eid que tu postes en story Insta. Surtout et j'adore les bougs et les meufs. Mais en fait, je kiffe Genre vraiment, désolée, mais s'il y a un truc que la diaspora réussit parfaitement, c'est le petit Kramus avec la paire de Nike. Genre tu vois, ce truc-là, le Eid outfit, c'est... j'aime trop. Genre tout le monde est là, tout le monde flex. Je vois tout mon Instagram, mes potes de New York, mes potes de Londres, ils sont là en mode Eid Mubarak, big flex. Et... j'adore. Genre j'adore. Je vois que des gens heureux. Ouais. Genre dehors, enfin ça me fait trop kiffer.
Pour ceux qui comprennent pas, c'est comme le jour de la rentrée, mais en plus fort. C'est le même feeling de cerveau pour la rentrée, etc. Mais en beaucoup plus fort.
Même tu vois les stories et tout. Enfin hier je me disais waouh, en fait il y a grave des musulmans dans mon Insta. Je vois toutes les stories.
Mais clairement, tu sais, il y a des gens, je savais pas qu'ils étaient musulmans, et je m'en rends compte avec leur photo, leur petite story Eid outfit. Genre. Ouais. Et du coup il y a une meuf qui avait tweeté, elle avait tweeté quoi? Ouais, elle avait tweeté « At what time the Muslim boys posting Eid fits ?» Elle a mis entre parenthèses « The traditional clothes paired with the Nikes ». Ou en gros, elle demande à quelle heure les boogs ils postent leurs photos de l'Eid. Donc voilà, si jamais vous voulez vous marier, c'est aussi peut-être le meilleur moment pour slide dans le DM. Mais bref, et ça fait la bonne transition sur le sujet d'après, qui est l'Arab Love, les copains. Il y a quelques années, on a enregistré un épisode qui s'appelait l'Arab Love, où on parlait de l'amour entre personnes de communautés maghrébines, des représentations de l'amour dans les communautés maghrébines.
Je suis vert que les Wafa soient pas là.
Mais bref, ouais, bon, ça, mais ouais. Ouais. Et du coup, je suis allée réécouter cet épisode et j'ai noté quelques petits trucs que vous aviez racontés pour un peu vous rafraîchir la mémoire. Donc, Sid, il avait commencé l'épisode en disant que le premier truc qu'il avait fait, c'était d'attraper son daron et de lui dire « comment t'as fait ?»
Ouais.
Tu vois. Pour justement, parce qu'il y a tellement, en fait, aucun guide, on va dire, et aucune représentation que, bah, en fait, mis à part demander à ses parents, bah, il n'y a pas trop de... Ou alors, enfin, aujourd'hui, en vrai, on arrive à un âge où on commence à voir nos potes. Donc, du coup, on a cette nouvelle représentation qu'on n'avait pas au moment où on a enregistré l'épisode, parce qu'on était encore un peu jeunes. Théophile, il expliquait que lui, il voyait tout le temps il avait toujours des visions de violence quand il s'agissait genre d'Arab Love, parce que c'était ce qu'on montrait dans les chroniques, dans les films, etc. Ziad, il disait que lui, en fait...
S.O.Ziad.
S.O.Ziad.
C'est tellement dommage que Ziad ne soit pas dans cet épisode-là, mais bon.
Je suis à deux doigts de les appeler parce qu'il y a Chimel qui m'envoie des messages, là. En vrai, ils sont réveillés.
Mais là, en vocal, là.
Chimel, s'il te plaît, du coup, c'est quoi ton témoignage?
Et donc, en fait, lui, il disait que, justement, c'est un débat qui se posait uniquement avec nous parce que nos parents, ils ont grandi avec ces représentations-là, donc ça ne les dérange pas. Et en gros, on parlait genre de la représentation numéro 1 en France, des chroniques des chroniques, c'était les seules représentations de love maghrébin et le rap, quoi.
Et en quoi? En 4 ans, la situation s'est améliorée. On a des séries pas du tout clichés. Je vais pas lancer le débat et nommer la personne de la série, mais tranquille. Je sais que c'est un débat autour de cette table.
Mais je trouve que non, parce que cette série, il y a pas d'Arab Love dedans vraiment. Donc en vrai, c'est mon hors sujet.
Moi, j'avais parlé de Mektoub et sur Ryan, parce que absolument que je regarde ça.
Mais parce que Ryan, en fait, Ryan était un peu plus banlieue, où Anis Raline nous a parlé de la série Mektoub, qui est une matérialisation de chronique, tu vois, finalement.
Exactement.
Et donc, mais c'est presque assumé, tu vois.
Ouais.
Parce que les chroniques, même si c'était mal orienté, pas représentatif, c'était quand même fait par des gens de chez nous. Et Mektoub, c'est un peu la même énergie de... On fait pas un truc excellent, mais on le fait, c'est nous, pour nous, machin... C'est un peu la même ambiance.
En mode la taille, en fait.
Ouais, mais non, on tue ça. Non.
Arrête.
Et non, la petite... Bon, bref, non, j'ai dit, je vais pas insister sur la série. Qu'est-ce qu'on disait d'autre dans cet épisode?
Bah non, mais en gros, ça tournait beaucoup autour de ça, tu vois. Et je trouve que... Moi, bon, pour revenir, parce que du coup, pendant l'épisode, je ne faisais que de citer des représentations audiovisuelles. Une représentation audiovisuelle assez intéressante. Bon, il y en a deux. La première, je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai pas vue. Donc, on m'en a juste parlé. C'était Sherazade, le film. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu autour de la table.
Non.
Donc, je sais qu'on m'avait dit que voilà, il y avait un peu de rebeu qui s'aimait. J'en sais pas plus. Et c'était assez chouette. Et la deuxième représentation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'était dans la série Vampire sur Netflix, avec qui n'a pas. Enfin, je crois qu'elle a pas trop marché, la série.
Ouais.
Et en fait, le c'est une série française. En fait, l'actrice principale, c'est Oulaya Mamra. Et du coup, l'idée de la série, ce qui est hyper, enfin, ce qui est trop bien, c'est que c'est le personnage principal. Elle est d'origine algérienne. On le sait dans la série. À aucun moment, ce n'est,
c'est pas écrit en grand.
C'est mentionné, mais c'est pas du tout un trait de personnalité du personnage principal d'être algérienne. C'est un vampire.
Et c'est pour ça que c'est de la fiction.
Et en fait, ce qui est assez cool, en gros, l'histoire un peu, c'est une fille dont le père était un docteur algérien qui vient d'Annaba, et la mère, en fait, était une française, vampire, donc elle est métisse. Et en gros, ils sont tombés amoureux et ils ont eu elle qui est du coup moitié vampire, moitié humaine. Et en fait, dans la série, elle est amoureuse d'un garçon de sa classe. Et en fait, tu sais, c'est un peu le scénario un peu banal de film de vampire avec la meuf qui veut vivre une vie normale, mais qui a une famille anormale qu'elle doit cacher à ses amis et tout. Et en fait, ça se passe à Paris, tu vois, et c'est genre une petite qui habite à Belleville. Enfin, c'est genre tous les lieux et tout, c'est que des lieux qu'on connaît, voilà. Ouais. Et en fait, elle habite à Belleville, mais elle habite genre en sous-sol, parce qu'il faut pas qu'il y ait de la lumière, sinon sa mère, elle va mourir et tout, bref. Et en fait, elle est amoureuse d'un garçon dans sa classe qui est un rebeu de la classe. Et où en fait, ils sont un peu amoureux, mais en même temps, c'est compliqué, parce qu'elle a un peu envie de le tuer, enfin de le mordre, genre. Vraiment, en Twilight, mais genre en mode, tu sais, c'est deux rebeux. Et en fait, pareil, à aucun moment, c'est important que ce soit des Arabes. Et c'est ça aussi qui m'a perturbée, tu vois. C'est que genre, c'est juste normal, mais c'est tellement jamais vu. Que...
Alors que j'ai l'impression souvent dans les films c'est genre le rebeu amoureux de la blanche bourge, mais c'est
drôle
vrai que
la dernière série que j'ai vue hein, où c'était comme ça c'était drôle sur Netflix.
Mais voilà, pour chez Razad vite fait pour revenir
c'est attends pause c'est... drôle c'est avec celui qui ressemble à Z,
ouais, exactement ouais.
C'est quoi je vois Yoon Son De Moon là le rappeur du rap, ok ça y est c'est bon
ouais vas-y.
Pour chez Razad pareil genre en vrai enfin ça m'a pas du tout frappé de me dire oh c'est deux rebeux, enfin t'es plus captivé par l'histoire que l'origine, enfin c'est pas du tout important dans le film.
Okay.
Moi je peux faire une update concernant les propos que j'ai tenus il y a de cela quelques années. Du coup avec les événements qu'on organise pendant le Ramadan, ça m'a aussi permis de voir de très très belles représentations dans la vraie vie. Et c'est vrai que j'ai vécu le début de ma vie un peu en isolement, en isolation du reste de la communauté franco-maghrébine. Et du coup, au travers de la taille, je me remets un peu dedans et c'est très très cool. Et c'est vrai que pour contrer les médias en fait, qui nous font manger des histoires de violence et trucs comme ça, de ghetto, tout ça, ben, en fait, les événements de la taille, ça m'a permis de voir des choses mais très très belles, de façon très ponctuelle, genre... tu rencontres celle qui va être ta future mariée à un événement, ou des couples qui arrivent, des couples métis, tu sais, des trucs vraiment pour contrer toute la vilainie et la méchanceté qu'on se prend dans la gueule, tu vois, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ben, les événements de la taille m'ont vraiment mis en face, tu vois, de très belles choses. Et ça, franchement, c'est un truc pour lequel je suis incroyablement. Enfin, je me sens très chanceux de pouvoir être là.
Quelqu'un a quelque chose à rajouter ?
Ouais.
Allez, si.
En termes de représentation, je suis assez fier de dire que j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice.
Bah ouais.
Avec mon dernier bouquin, qui a inspiré du coup de ma relation en cours, quoi. Donc, mesdames, faut arrêter. Mesdames les auditrices, faut arrêter.
Les DM sont fermés.
Oh, j'ai mal à comprendre. Ouais.
Donc je refais la phrase. Mesdames les auditrices, faut arrêter. Et
t'as rigolé comme la skippe, pardon.
Oh le force. Oh le non mais je te jure, il fallait le faire. Mais bref. Et ce livre-là, j'en ai vu la portée à plusieurs moments, à la première séance de dédicace où certains parmi vous étaient là, et au souk. Au souk où, quand je parle à des rebeux de ce livre qui kiffent direct, qui se disent, qui feuillettent un peu le livre, qui voient un texte, Aïdek Moubrouk, El Alim, ils voient 2-3 mots d'arabe, ils savent qu'ils connaissent un peu la backstory de l'histoire, etc. Et ça met beaucoup d'espoir dans la tête des gens et ça met des problèmes dans la vie des autres hommes. Je sais combien de fois La réaction d'une femme à qui je le vends, c'est « Putain, mon mari, il me fait pas ça. Je lui ai envoyé un message. » Il y a une des autres meufs du souk à qui j'ai dû dédicacer son livre pour son mari. « Désolé, je te facilite pas la tâche. » Je l'ai signé, je lui ai donné. Et au final, si on n'a pas les représentations, on a grandi, bah on commence à les créer nous-mêmes. C'est ça, tu parlais de nos potes. Théophile, tu parlais de... Ouais. Théophile, tu parlais des souks l'été et au final de tous les épisodes de l'été. Moi, j'ai mes livres. Mais à partir du moment où on a un média, enfin, un vecteur d'expression quelconque, bah, tu tues ça. Rien que le fait d'être une relation de ce format-là, tu peux juste être une figure intéressante pour répondre aux questions à ceux qu'on aurait. Genre, moi, j'ai eu mon père et tu disais, t'es. Lina, tu disais qu'on pouvait poser les questions à nos potes aussi, mais quand t'essayes de te marier, finalement, ta famille, c'est une condition dans l'environnement. Donc, moi, c'est pour ça que je vais plus recommander aux gens de voir avec leur famille les conditions, les méthodes attendues, etc., plutôt qu'avec leurs potes, parce que tes potes, ils ont peut-être pas les mêmes attentes, la même éducation directe que toi sur certaines traditions et tout. Si j'avais parlé avec mes potes marocains, égyptiens ou je sais pas quoi, peut-être qu'ils m'auraient pas donné certains détails importants qui sont attendus chez WAM. Et parce qu'au final, c'est toujours une question de culture à respecter. Au départ, j'allais utiliser le terme préserver, mais c'est plus une question de respect parce que t'avances avec ton temps, t'avances avec ton contexte aussi. Ouais. Des fois, la personne en face de toi, t'es pas vraiment de chez toi, elle a sa culture aussi, mais en gros, faut faire matcher tout le monde. Et c'est le plus important, mais à partir du moment où toi et la personne concernée vous matchez, qu'est-ce que ça marche bien.
Du coup, moi aussi, je voulais rajouter un truc par rapport à ce sujet-là, parce que j'étais pas là. Au premier épisode sur l'arabe love. Et en gros, moi, j'ai pas grandi avec des hommes maghrébins romantiques en soi. Donc, je savais pas vraiment quoi penser. Et en gros, en grandissant, du coup, ces dernières années, il y a du coup 2-3 ans, j'ai dit du coup 3-4 fois, je suis désolée. J'ai eu beaucoup plus d'amis maghrébins garçons qui se sont mis en couple. Et j'ai pu voir une nouvelle facette d'eux, une facette d'eux romantique. Et je savais pas que c'était possible à ce point, en fait. Genre, je pensais que c'était plus sobre de notre côté. Mais waouh, mais pas du tout. Et j'ai vu, bah, du coup, un recueil de poèmes. J'ai vu des gens penser à faire des... la favorite. J'ai vu des gens penser à faire des mixtapes, mais que pour leur meuf et tout. J'ai vu des projets se faire autour de leurs copines, juste entre eux, pour eux, et hyper intime. Et j'ai vu des hommes changer, et c'était incroyable de voir ça.
Ouais, mais hey, les gars, on est les enfants du rail. Gros.
C'est ça, alors qu'à la base, finalement, notre culture, elle est super romantique. Nos poèmes, ils sont incroyables. Puis même, du coup, pas pour tout le monde, mais la langue arabe, elle est hyper riche, et les poèmes arabes, ils sont hyper romantiques.
Ouais, je m'étais arrêté au rail parce que c'est dans la culture populaire. Ouais, mais si tu remontes à la vraie poésie...
Exactement, puis même chez les berbères aussi, pour ceux qui sont pas arabes, on a des poèmes hyper romantiques aussi. Et bref, c'est ça, mais juste, ça l'est vraiment énormément chez nous, tu vois. Enfin, j'ai dit des termes, c'est dingue. Mais voilà, c'était ce que je voulais dire. Ah oui, et même sur Twitter, j'ai vu des gens parler de leurs parents d'une manière spéciale, de ce que faisait leur père pour leur mère et tout. Je me disais, waouh, mais en fait, j'ai juste pas eu cette chance-là, tu vois. Le trauma dumping, désolé. mais voilà, du coup, ça m'a permis un peu de relativiser sur les hommes maghrébins. Parce que j'avoue, j'avais un peu une mauvaise image de vous. Désolée. Mais j'ai changé, j'ai grandi. On change, on
évolue. Les filles.
Ouais. Et vous aussi, ouais, attention, pas que moi, vous aussi.
On fait une petite parenthèse mariage.
Hein ? Comment ça ? T'as un truc à dire ?
Les gars, le mariage.
Comment ça ?
Non, personne, nous, non, en tout cas.
On a rien à dire.
Que toi, pas
j'ai une boule sur le, dans le ventre là. T'allais dire quoi?
Que le mariage ça coûte cher. Et que culturellement.
Non, j'ai cru, il allait sortir une.
Non.
Ouais, je vais me marier du coup dans deux semaines.
Excuse-moi. Donc, non, par contre, le côté le mariage ça coûte cher et j'ai l'impression que c'est culturel, c'est presque un truc que je veux vraiment évoquer et peut-être plus en profondeur un jour dans un épisode où. Peut-être qu'un jour j'aurai des trucs à annoncer, mais tu vois, au départ.
On va faire la comptabilité du mariage, c'est tout. Ouais.
Mais tu vois, moi, je sais pas comment te dire, à cause des tabous sur l'argent, c'est difficile d'avoir une réponse, frère. Même mes potes, je leur dis, tu t'as payé combien, histoire de me fixer un objectif d'épargne,
ouais,
une somme que j'ai de côté, à partir du moment où je peux me dire, vas-y, ça y est, je peux. T'as une espèce de hachma de « Ouais, non, ça coûte cher. Ouais, non, ça coûte cher. »
Et oui, combien ?
C'est le principe.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils disent pas les prix.
Non.
Même quand tu veux regarder tout, genre, tout le monde est en mode « Non, mais c'est propre à chacun. »
On dirait que c'est pas eux qui ont payé, frère. Je parlais avec émotion. Mais ne pas hésiter à céder entre nous là-dessus et à céder entre nous sur ce qu'on demande. Au départ, ma meuf et moi, on n'était pas réalistes, gros. On n'était pas réalistes. Je m'inclus là-dedans. Parce que ça peut être très facile de dire, ouais, elle n'était pas réaliste. Je m'inclus là-dedans sur une partie des ambitions et des propos.
Toi aussi, ce moment, tu fais des photos, ok, c'est bon.
Si.
Tu veux le mettre ?
Ouais. Comme je te disais, c'est un thème qui, je pense, mérite d'être abordé. Parce que t'as les impératifs. Dot et compagnie, des trucs un peu plus culturels, trousseau, etc. Les diverses prestations, les invités politiques au mariage parce que t'as été invité à droite, à gauche, je sais pas quoi.
Tu sais que ça me fait peur, hein, parce que en fait, il y a trop de gens qu'on est obligé d'inviter parce qu'on a été invité, mais je vous connais pas.
Des fois, c'est pas toi qui a été invité, gros.
C'est ça le pire.
Des fois, c'est pas toi qui a été invité.
Pour ajouter la liste des darons qui.
Ouais, la liste des darons, moi.
Qui est plus grande que les. Mais ça, j'ai l'impression que c'est. Enfin, moi, je sais que j'ai une pote, genre blanche, qui se marie. Et c'est la même chose.
Les darons, ils ont invité
200 personnes de plus, alors qu'ils sont en mode. Non, on veut pas.
Ouais. Et pareil, tu vois, du coup, ça doit être une autre discussion à avoir et que je vous encourage à avoir avec vos familles. Mais qu'est-ce que culturellement et traditionnellement votre mif attend précisément à votre mariage? Comment tu fais un mariage qui préserve et respecte tes traditions? C'est trop de réflexions, ma gueule. Ok, bah j'étais pas préparé. Grâce à Dieu, je vais pas me plaindre d'être dans cette situation.
En fait, personne n'était préparé, en vrai.
On n'est pas prêt, gros.
Genre, tous les gars, vous êtes tous, enfin même les meufs, on est toutes dans le même délire. C'est le moment, genre. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait?
J'ai beaucoup parlé de ça avec mon pote Dédé, à qui je fais des bisous, mais où il dit, il pétait les plombs il y a quelques années. Il me dit, si toi et moi on va ouvrir un commerce dans le divorce parce qu'on va se faire trop de thunes, il y a trop de gens qui se font matrixer par les réseaux et qui veulent se marier alors qu'ils n'ont pas les épaules, qu'ils savent pas préparer un mariage, et ils savent pas assurer un couple marié derrière. Et donc ça,
ouvrir un business sur le mariage, c'est plus
possible.
C'est ce que j'essaye de faire là avec cette intervention qui, j'espère, facilitera des gens. Parlez à vos anciens qui se sont déjà mariés. Pour certains, ils se sont déjà mariés plusieurs fois. Donc ça, si c'est un autre tabou qu'on pouvait briser après celui qu'on a évoqué il y a des années maintenant de juste l'amour, briser celui des préparatifs à des étapes importantes de la vie qui arrivent, j'aurais passé mon message aujourd'hui.
Moi, je suis en train de voir une génération qui est celle de nos parents et un peu plus vieux, qui sont en train de divorcer, et du coup il y a des motifs qui reviennent. L'un des motifs, c'est la personne avec qui tu étais en couple à 18 ans, vous êtes marié à 20, premier enfant 21. Quand vous avez 50 ans, c'est plus le même délire.
Vous pouvez plus vous voir.
Déjà, parce que, genre, la personne avec qui t'es en couple, vous adorez faire la teuf ensemble, vous avez les mêmes délires. Mais d'enfant, jeune adulte, tu sais, adolescent, mais quand vous avez la 40 et la cinquantaine, vos vies, mais elles vont prendre un tournant différent. Parce qu'en fait, vous n'arrêtez pas de grandir. Même après le mariage, même après un enfant, vos trajectoires de vie, elles continuent, vos mentalités, elles se développent. Et en fait, bah, un jour, tu travailles et t'as un inconnu ou une inconnue à côté de toi dans le lit.
Tu vois, ma chérie, si aujourd'hui j'envisage le mariage avec elle, c'est parce que même si demain on s'aime pas,
ouais,
j'ai toutes les raisons du monde d'être avec quelqu'un comme elle.
Ouais.
Genre en mode, dans un couple, un partenaire comme ça, ça marche et ça se trouve pas partout.
Ouais, grave.
Donc, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas forcément d'amour, même la réflexion religieuse derrière le mariage, c'est beaucoup ça qui m'a fait comprendre que l'amour... c'est optionnel, ma gueule. Mmh. C'est optionnel. Et Dieu merci, ça va, j'en ai. Mais même si demain, il n'y en a pas, gros, quelqu'un comme ça, ce serait très, très bête de le laisser passer.
En vrai, c'est l'amour, genre, passionnel.
Ouais.
Tu parles vraiment... Parce qu'en soi, genre, la façon dont on aime notre famille, la façon dont on aime nos amis, c'est de l'amour aussi. Mais genre, on se trompe beaucoup, en fait, sur le type d'amour qu'on est censé donner, ouais, recevoir.
C'est ça. À cause de certains standards établis partout et...
Même à cause du capitalisme aussi, hein, on va le dire clairement. Genre, en vrai, gros, l'amour passionnel, ça ne tient pas. Donc, du coup, c'est le truc qui fait le plus vendre.
Dans ça, les qu'est-ce que ça veut vendre
dans, les films, dans, dans tout, partout, toutes les œuvres, littéralement, tout le divertissement que tu consommes, il est basé autour de l'amour romantique et de la notion de couple, de la meuf qui finit par tomber amoureuse d'un mec et après, ils sortent ensemble et on ne sait jamais ce qui se passe après.
Le top exemple qui allait dans cette direction, c'est un film que j'ai déjà cité ici et il me semble dans la Rab Love en plus.
Think Like a Man.
Le mec qui est le plus stable de la série, c'est celui qui au premier visionnage il te paraît chiant, c'est le daron blanc là, le plus calme, le seul qui est marié.
Lequel?
Il a une dégaine chelou, il a une banane, même dans le 2 sa femme elle est avec elle et au départ elle est en lunettes, tout ça là. Eux c'est pas un amour montré comme passionnel, mais c'est un amour où il se lâche pas.
Ouais.
Et bah en fait, quand tu grandis, bah gueule, je veux être comme lui. Bah, tous les autres ils sont bien marrants, mais je veux être comme lui.
Petit retour d'expérience. Parce que moi, je me suis mis en couple avec ma compagne l'année où on a commencé le podcast.
Ouais.
C'est une dinguerie.
Ouais, je m'en rappelle.
Tu vois, ça vraiment. 2017, année très difficile pour moi. 2018, j'ai rencontré mes...
Remontada.
Voilà, ouais. Franchement, la remontada, je vous rencontrerai vous, j'ai rencontré ma compagne, un truc de ouf. Et bah, du coup, 5 ans après, hein, petit passe temps, ouais. C'est vrai que là, on n'est plus en mode lune de miel. Par contre, on est en mode vie stable et confort émotionnel, confiance. Genre, peut-être qu'il y a 5 ans, elle m'aurait dit va au bout du monde pour moi, j'aurais fait allez, carrément, je me lève à 6h du mat. Maintenant, c'est vos bouts du monde, ouais. Envoie-moi une invite sur Google Calendar.
C'est ça.
Tu vois, prévois-moi 2 jours à l'avance.
Vas-y, j'arrive, je t'en rejoins.
Et non, ouais, même, tu vois, donc on a appris à vivre ensemble. Mm. Et on a appris à vivre ensemble sur la durée. C'est à ne pas s'épuiser. Parce que quand t'es en mode lune de miel, t'as envie de faire un truc de ouf et tout, à la fin, t'es dead. Et quand t'as besoin que ça dure, t'as besoin de te ménager. Donc ça veut dire aussi mettre tes propres limites sur ce que t'as envie de faire, ce que t'as pas envie de faire, tout ça. Mais en fait, ça veut aussi dire planifier pour le futur et pour ton énergie que tu vas avoir plus tard. Mmh. Et ça, je pense, c'est dur. Mais surtout, quand tu te mets en couple trop jeune, avec un peu, pas des menottes, mais tu sais, avec le mariage qui dit tu restes là, bah, en fait, tu sais pas gérer la durée. Parce ouais. que t'as 18 ans, t'as ton premier gosse à 21 ans, peut-être que t'as pas encore fini tes études, et c'est chaud. Enfin, moi, je me sentirais pas d'avoir eu mon premier enfant à 21 ans. 21 ans, je t'en prépare. Ouais, j'étais en internat, j'avais même pas mon propre appart.
Ouais.
Là, j'en ai. J'ai un peu plus
vieux.
Pas le plus vieux. Mais et c'est vrai que maintenant, la question de la paternité peut-être se pose de façon un peu moins déraisonnable que les années d'avant. Mmh. Parce que je suis plus stable émotionnellement, mmh. financièrement, j'ai un appart, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, ça commence un peu à tu vois, le vent arrive dans les voiles, tu vois. Je commence à me projeter plus.
C'est la meilleure image que tu viens d'utiliser, là. Ouais. Le vent arrive dans les voiles.
Ouais,
c'est
beau.
Clairement un super résumé du truc.
C'est ça, mais c'est aussi... Enfin, après, il y a des couples qui sont mariés très jeunes et où ça a marché. Je pense que la différence, c'est vraiment les raisons
ouais.
et le contexte.
Ouais, clairement, ouais.
Genre, c'est plus un problème de précipitation, ouais. de, tu vois, genre manque de temps, manque d'expérience aussi. Enfin, c'est pas une expérience dans le sens qu'il faut avoir de l'expérience dans les relations, mais c'est vraiment il faut avoir une expérience de vie, genre dans les relations humaines en général.
Ouais, c'est ça.
D'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à c'est quoi, enfin, comment tu connais quelqu'un, genre qu'est-ce que t'es censé voir et tout. Et t'as ce truc où, bah forcément, en fait, te marier quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de taf, quand t'as pas d'appart. C'est toujours genre
beaucoup plus compliqué et complètement différent que de te marier, genre, quand t'as ton taf, quand t'as déjà l'appart qui est prêt, quand, en fait, t'as trois quarts des aspects, en tout cas financiers et matériels, qui sont prêts. Ouais. Donc, il y a ça. L'enfant, c'est pareil. Après, ça veut pas dire que parce que tu le fais à un moment ou à un autre, ça va marcher ou pas. C'est pas parce que tu le fais au moment où, genre, tout est prêt de façon financière que ça va marcher, comme l'inverse. Mais c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses.
Bien sûr.
Faut juste prendre son temps, être sûr de la personne et voir aussi l'énergie et le contexte, tu vois.
Et dans toutes les nuances qu'il y a à mettre à ça, il y a quand même deux trucs qui sont assez simples à suivre comme guidelines, tu vois. Déjà, si t'as un enfant en route, c'est pas le bon motif pour te marier.
Ah, ouais.
Ou même pour tout lâcher, les études et tout, et, ouais, et prendre un temps, tu vois. Parce que à un moment, l'enfant, tu vas finir par lui en vouloir. Et déjà, ça va niquer ta relation avec ton enfant. Et surtout, si t'es dans une soirée BDE, que t'as une bière à la main et que tu vois une personne et tu dis j'ai envie de me marier avec cette personne, non.
C'est pas vrai.
T'as envie de faire un teuf avec cette personne. Non mais genre, t'as envie de faire un teuf avec cette personne, t'as envie que la teuf elle continue toute ta life,
mais
à un moment, voilà, va falloir assumer la gueule de bois.
Ouais.
Et à un moment, tu vas te retrouver à 50 ans, tu vas te dire mais en fait.
Tu parles qu'en fax aujourd'hui, t'es
ouais,
au
tu régales.
Oui, parce que je suis en train de vous le dire, je suis en train de voir une génération
ouais.
qui était un peu en mode genre Paris est une fête. Et qui là est en train de se casser la gueule.
Ouais.
Après, si vous voulez, je suis en train de voir la génération d'encore avant qui est en train de partir. Et donc, un jour, on parlera du deuil et je vous parlerai un peu aussi de ça. Mais là, je suis en train de parler de la génération de nos parents, à peu près, sur
ouais,
la quarantaine,
ouais,
50 ans, qui tombe sur 60 ans. Et en fait, c'était en mode voilà. Et surtout, là, donc, faut pas marier de gens avec qui tu fais la teuf. No job in job. Donc, franchement, tu vois, c'est. Il faut garder la teuf et la vie de couple sur le long terme. Ah, ça, c'est l'expression de mon père, ça. Laisse tomber, mais j'en ai toute ma besace comme ça. Tu vois. Et surtout, avoir un gosse qui arrive, c'est vraiment pas le bon moment ni la bonne excuse pour pour tout lâcher et pour prendre soin de l'enfant. Parce qu'à un moment, l'enfant, un jour, tu vas le regarder, tu vas te dire tu m'as bouffé ma vie, tu m'as bouffé mon avenir. Et c'est très très.
Une autre,
c'est ignoble.
Une autre guideline. Les gars, se préserver, c'est très très cool. Dieu me pardonne toujours, et donc on n'expose pas trop ses péchés, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ma future femme n'est pas la première femme que j'ai connue. Et quelle perte de temps! Des fois, j'ai le désir absurde de lui en vouloir. Enfin, des fois, je lui en veux. Avec absurdité de pas être arrivé plus tôt.
Ouais.
Et je le dis en rigolant, tu vois. Mais parce que plus jeune, j'aurais trop aimé savoir, et donc je le dis à nos auditeurs plus jeunes, t'as le temps, mais chaque parcelle de ce temps que tu as en grande quantité est super précieuse. Et franchement, des fois, il y a des gens, ils passent dans ta vie et ils gâchent tout le temps qui passe dans ta vie. Ils l'envoient en l'air. Vas-y.
En vrai, je suis pas trop d'accord avec toi, ou en tout cas ton cas à toi,
ouais.
Parce que justement, c'est tes relations passées qui ont fait que maintenant t'as cette pensée-là.
C'est clair, il y a cette idée du mec-tout.
Déjà, mais surtout, genre, toute ta réflexion, elle a été basée sur le fait que finalement, il y a eu des échecs et tout, et que bah, t'as une nouvelle sagesse qui a été débloquée via ça, tu vois. En vrai.
Ouais, mais si deux. Enfin.
Prenez votre temps, oui, mais une expérience, c'est une expérience, tu vois.
Ce qu'elle vous dit, c'est que la vie est un gacha et qu'il faut grinder.
En fait, c'est surtout.
Parce que dans l'entre-deux, il y a une différence entre t'as raté un mariage que t'as fait plein de bonnes intentions
ouais.
et t'as raté juste une aventure qu'en vrai, même toi, tu savais, tu t'avais aucune ambition dans le truc. Genre, c'est pas la même aventure que tu rates et pas les mêmes conséquences. Et. Enfin, le sentiment du regret et de la perte de temps, je le souhaite à personne.
Mais pourquoi tu l'as alors qu'au final, t'es sûrement avec la bonne personne.
Ouais, mais ça laisse des traces quand même.
Oui,
ça laisse des traces, c'est pas facile à porter, c'est pas facile à assumer pour la personne en face de toi. C'est ça, c'est souvent des regrets.
Tu vois, moi j'y pensais aussi un peu. Parce qu'actuellement, je suis dans une relation qui est incroyable. Et je me dis, si elle m'avait connu à 20 ans, 22 ans, 23, non, 23 du coup c'était ça, mais c'est 20 ans, 22,
ouais.
22, elle serait pas restée.
Et
parce que en fait, moi quand j'étais jeune, j'ai grave merdé avec les gens avec qui j'ai relationné. Franchement,
ouais.
c'est pas ouf, j'étais jeune, et surtout, ben, je comprenais pas toujours ce qui se passait. Et surtout, ben, j'avais fait de la merde, de façon objective, hein, et ça m'a permis aussi d'apprendre. Et je pense que si j'avais rencontré celle qui est maintenant ma compagne à cette époque-là, oh, elle serait pas restée. Enfin, elle m'aurait vu, elle me fait ok, genre next, genre non, c'est mauvais bail, mauvais délire. Franchement, j'étais grave mauvais délire à un moment.
Je suis très d'accord sur ça, sur le fait qu'en fait, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Ça veut dire que si tu la rencontres...
Elle n'est pas toujours les gars.
Si, tu rencontres toujours la bonne personne au bon moment.
Peut-être que toi, t'es meilleur. En fait, le moment, il passe, tu vois. Maintenant, tu
vois. Oui. Et peut-être même que c'est l'inverse. Peut-être que c'est toi, tu l'aurais rencontré avant, il t'aurait pas kiffé. Ou vice-versa, tu sais pas.
Oui, non, d'accord, non, ok.
Mais en fait, par j'ai contre, pas pris
la réciproque
okay.
de ta phrase.
Par contre, je suis très d'accord avec toi sur le fait que oui, il y a beaucoup de relations dont, en vrai, tu peux te passer. Et en vrai, c'est vraiment aussi parce qu'on est dans ce truc où on est quand même dans une société qui te pousse énormément à, enfin, si t'as pas eu de copain à 16 ans, 17 ans, 18 ans, t'es bizarre, tu vois. Ou genre, tu sais, c'est, enfin, t'as ce truc où genre, limite, on dirait que c'est pas normal, genre, de pas avoir eu de relation amoureuse quelconque, tu vois, genre, juste d'avoir eu un copain ou d'être sorti avec quelqu'un ou d'avoir eu un date, genre, y a des gens qui ont jamais eu de date. Et genre, on dirait qu'aujourd'hui, genre, si t'as pas eu de date, si t'as jamais eu de rendez-vous, bah, c'est une dinguerie. Mmh. Alors que
non.
Non, en fait. Et c'est, je pense que c'est ça aussi qu'il voulait dire en vrai, tu vois.
Je parlais de l'idée de se préserver, vous m'avez parlé de l'idée de, c'est des expériences, avec du recul, il y a plein d'autres choses qui m'ont fait grandir. Je suis pas obligé de grandir à travers les autres personnes que je rencontre, et surtout que même ces personnes-là, j'étais pas prêt.
Ouais.
J'étais pas prêt, j'étais pas censé vivre certaines choses précises que j'ai vécues. J'étais pas... Les étapes qui m'ont le plus fait avancer, ironiquement, c'est quand je me suis retrouvé seul face à moi-même. Pour opposer le truc, il y a quelques relations qui ont servi à rien. Il y en a une qui m'a fait grandir, mais parce que justement, ça m'a confronté à moi-même et à ce que je voulais. Alors que les autres, c'était juste de la perte de temps. Donc je vous rejoins, il y a des expériences qui font grandir. Mais il y en a d'autres.
T'aurais pu t'en passer.
Waouh! Waouh!
Ah, mais t'étais jeune aussi.
Ouais, c'est clair. Donc, après, moi, je suis très bienveillant avec le moi du passé. Donc, j'ai pas la haine de moi-même. Mais si demain, il y a un autre petit à qui je peux éviter ça, je m'en voudrais de pas lui avoir dit.
Mais ouais. Ok, les copains. En tout cas, c'était grave intéressant d'avoir ce petit update. Ce petit check-up, quoi. Et on va cut, bien évidemment, avec, comme d'habitude, une petite chanson qui a cette fois été choisie par Théophile. Et du coup, la musique s'appelle Batel Alam. Et c'est une chanson d'un rappeur égyptien qui s'appelle Marwan Moussa. Comment t'as trouvé ce son, d'ailleurs?
Alors, les recos Spotify.
Okay.
Là pour le coup,
l'algorithme.
Ouais. Là, je me suis fait prendre par surprise. C'était super.
Ouais.
Et en même temps, TikTok.
Ça elle est sur TikTok.
C'est-à-dire que le mec, j'ai vu un début de son clip sur TikTok, il me semble.
Okay.
Et au même moment, ça atterrit dans mes recos Spotify.
Ok.
Donc un peu à la flip quand même, parce que le machin il te vient de plusieurs endroits à la fois. Mais franchement, j'ai bien accroché.
Bah en tout cas, nous, on était dans la voiture en direction du souk. Et il me dit, ouais, je peux mettre une chanson? Je dis, ouais, vas-y. Il me met cette chanson, j'ai grave kiffé. Du coup, on a décidé de vous la passer. On écoute Batel Alam de Marwan Moussa sur la taille. Wow. Ma fiche shabahi baladak. قارن ورقي بورقك بلدك المفضلة بنما دنيا ومليش عزيز مرقة وانا كالماريو جيت اشعلل جيت اكسرك وجيت اكعبل قالولي ايه الغرض ليه مستعجل ساحب الكاش حماس دفعت البي ان سبورت انا رياضي مان لابس الشورت انا موسيقى انا اللي عازف الكورد حلقت لها عشان انا اللورد فيري امبورتانت اتنين نوم عايز يوم ديف تيجي نيو جيز على طول تاخد روم كيز والتشيز خدني صورة باخد تور فيه لما تعوز فيه تخلي بالك انا اقوم بيك بطل عالم داخل مول اجيب كاب حصل حالة بيجيب سيرتي كتير واخد بالك انا مش مشغول بي واخد بالك ايه واول ما تسقف انا رقصة كل ما تعقد عقد عقد انا بسطة هتروح تجيب اجلي باش اقصط وكل ما تعقد
gesagt. Wir werden auf Deutsch gehen und wir werden mehr auf Deutsch. Müssen wir das jetzt vor den Leuten sagen, dass ich schlecht aussehe oder was? Das heißt mal gut. Mann.
Ey, دوري مي فا سولا سي دو ده قبل ده يا ودي قبل دول ذكاء مالو حدود يا مان افلاطون انت روحت في الرجلين بنطلون ها على كيفك خد هت يا باشا على عينك اي 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 ماكارينا اصحابي كذا بلانكا اصحابك كذا هيتر كابتن طلب صغير ابلع ريقك خد بق ميا بطلت هايبر ياسطا شكلك كده مش مسيطر حبيبي على بالي كتير جميل بني غامق صافي زي الحرير البنت افتكرتني في كايروكي اصل تصرفاتي زي الامير مش عايزة اتمنظر بس ده بصراحة مش منظر باشا يخشن انا اجيبه يتصنفر باشا يتلم انا اشيله يتكمر هي واول ما تسقف انا رقصها كل ما تعقد عقد انا بسطها هتروح تجيب اجلي باشا قصتها وكل ما تعقد عقد انا بسطها كسر الوزة ببسي حاجز الليستة باسمي مارومان لسه بتجري مجالك مستحلف لي لكن التسلا في جهتي واو حلوة جهتي معادي it's just المعادي it's just جهتي فاهم وادي يس فين 22 27 بومين 29
Chouf, les recommandations. Alors Irfan, tu vas commencer les recommandations. C'est quoi ta recommandation?
Pour une fois que j'ai bien travaillé et que j'en ai une, moi je recommande un petit lieu à Marseille. C'est le Vidéodrome. C'est un bar cinéma où ils projettent plein de films indépendants. C'est trop trop bien et c'est prix libre. Et il y a tous les jours des petits trucs et tout. Et en ce moment, ils font un appel à dons. C'est un peu la crise, mais il faut absolument pas que ce lieu ferme parce que c'est vraiment, vraiment trop bien. Et c'est au cours Julien. Et voilà, du coup, c'est mon petit fouf spot.
Amel ?
Alors moi, du coup, j'ai pas fait mes devoirs, mais j'ai un peu, voilà, j'ai trouvé un truc en vif. Et c'est Sindler World, c'est la marque de bijoux d'une de mes copines qui était présente au souk. Et en gros, c'est des bijoux un peu féeriques, un peu alternatifs et tout. Et c'est trop stylé, j'adore ce qu'elle fait. Et je vous recommande à tous d'aller checker et pourquoi pas de lui acheter quelque chose. Parce que ça vaut vraiment le détour et puis ça peut un peu spicer vos tenues. Voilà, Sindler World, Linda.
Moi, mon chouf aujourd'hui, c'est un chouf... C'est le travail de photos et de vidéos d'une copine à moi, je vais même dire d'une sœur à moi, puisque à chaque fois on dit qu'on est les deux mêmes versions, mais des deux côtés de la Manche, puisqu'elle est londonienne. C'est une photographe qui s'appelle Zeyneb, et en fait elle a fait une expo à Londres qui s'appelle Inside Outside, et là elle vient de sortir une petite vidéo qui est sortie sur le site Nowness, où en fait dans la vidéo et dans les photos... En gros, elle a documenté des prières et un Eid en plein air à Londres. Et c'est très très beau et grave touchant. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on lui donne la force. Et j'aimerais aussi préciser que Zeyneb, c'est une de mes inspirations sur les idées des futurs collectifs. Parce que justement, je voyais dans ses stories à Londres que en fait, c'était un truc grave commun chez eux et... Mine de rien, ça a été aussi une inspiration sur ces trucs-là. Donc, big shout-out à elle et on mettra son Instagram en description pour celles qui veulent la suivre. Elle fait du très très bon travail, c'est une Marocaine de Londres. Voilà. Théophile ?
Eh ben moi, ça va être aussi des bijoux. C'est la boutique d'Arnifé. C'est de la conception turque. On avait eu le privilège et l'honneur d'avoir le stand aux deux derniers souks de la taille. À chaque fois, j'en repars. Les mains pleines et le portefeuille vide, et c'est vraiment super, c'est un délice à chaque fois. Donc ouais, c'est franchement des bijoux qui sont très très beaux, assez atypiques dans leur conception, et vraiment avec des micro-imperfections qui leur donnent vachement d'individualité à chaque pièce, et je kiffe.
Ilham est passé dans la salle, nous a rejoint Sikani, grand photographe, vidéaste, directeur artistique. Et il va nous rejoindre uniquement pour les choufs, donc du coup, il a aussi son petit chouf aujourd'hui.
Aujourd'hui, mon chouf, ce sera un photographe, un grand ami à moi, quasiment un frère, qui s'appelle Oussem. Son Instagram, c'est S-S-O-V-S-K-Y. Très grand photographe qui arrive à capturer énormément de choses avec une singularité incroyable. Et surtout qui fait pas que de la photo, il fait énormément de choses à côté, que ce soit de la vidéo, de la gestion de production. Il travaille notamment avec l'artiste Aboutal. Et c'est un travail remarquable qu'il est en train de faire, notamment avec une boîte de production qui s'appelle Empreinte Film, qu'il est en train de développer là depuis quelques temps. Donc allez voir son travail qui est vraiment incroyable.
De mon côté, je vous recommande une association que j'ai découverte pendant les Plumes Banlieue Awards et qui a une histoire digne d'Hollywood. C'est 18 Hills.
Oh, grave!
Ouais. Mais quand ils m'ont raconté l'histoire, j'ai pété les plombs. J'ai dit, mais comment ça se fait que je les connaissais pas?
De fou.
Ça part de quelques jeunes du 18e qui ont créé une association pour protester contre la démolition du City-Stade de chez eux. Et je vous fais un fast-forward de dingue, mais ils ont fini par remporter un tournoi international de foot à 5 au Qatar. Ils ont fait venir, ils ont fait venir Neymar sur le City de leur ville. Ils travaillent avec Red Bull. J'ai pas tous les détails de tout parce qu'ils sont très humbles et qu'ils veulent. T'as du mal à leur tirer les informations, mais allez les suivre, allez soutenir tout ce qu'ils font parce que ils sont ambitieux, ils sont bien intentionnés et ils régalent. Ils sont trop forts.
La Taille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Théophile, Amel, Irfan et Wafa. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.lataillepodcast.com. Cet épisode de La Taille a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant LaTaille, LATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @LaTaillePodcast. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.